Aujourd'hui, à Washington.
Abdelrahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 temps universel. Nous sommes vendredi 23 mars 2018. Au sommaire, le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga poursuit sa visite dans le nord et le centre du pays. Il a visité Kidal et Gao ce vendredi. Au Cameroun, une attaque attribuée aux séparatistes anglophones fait un mort et un blessé, tous deux des employés du gouvernement. Le groupe État islamique a revendiqué la prise d'otages et les attaques meurtrières qui ont fait 3 morts ce vendredi dans le sud de la France. Et ici aux États-Unis, le gouvernement fédéral va-t-il fermer ce soir à minuit? Le président Trump va se prononcer d'un moment à l'autre. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Après Tessalit hier, le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga est arrivé ce matin à Kidal dans le cadre de sa tournée dans le nord et le centre du pays. Il s'est ensuite envolé pour Gao. Le point avec Timothée de Langbaye.
Arrivé en hélicoptère sur la base de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, Soumaïlou Boubey Maïga a été accueilli à Kidal par le chef de cette mission, Mahamat Saleh Anadif. La sécurité aux alentours était assurée par les combattants de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, l'ex-rébellion à dominante Touareg. La République fera ce qu'elle doit faire pour tous ses enfants. Le Mali est un et indivisible dans sa diversité, a assuré le Premier ministre lors d'une rencontre avec les populations de Kidal. Nous plaçons beaucoup d'espoir en cette visite pour faire avancer l'application de l'accord d'Alger, a déclaré de son côté un porte-parole de la CMA, Mohamed Ag Assaleh. M. Maïga, accompagné par 8 de ses ministres, a entamé hier sa tournée par une halte à Tessalit. Il a quitté Kidal pour Gao. Hier, une attaque contre le camp de la MINUSMA et de la force française Barkhane à Kidal a fait 5 blessés légers parmi les militaires français.
Le président sénégalais Macky Sall a appelé à traquer les malfaiteurs qui s'attaquent aux enfants et à les traduire devant la justice après une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants ayant créé une psychose au Sénégal. J'ai appris avec douleur ces rapes d'enfants suivis de meurtres. J'ai déjà donné des instructions les plus fermes aux forces de sécurité pour traquer ces malfaiteurs, les traduire devant la justice, a déclaré Macky Sall sur la radio privée RFM. La police a fait état mardi de 2 meurtres d'enfants et de 5 tentatives d'enlèvement dans ce pays ces derniers jours. Le gouvernement mauritanien rejette les accusations d'Amnesty International qui a dénoncé hier les menaces pesant sur les défenseurs des droits de l'homme, sur la persistance de l'esclavage dans ce pays. Nouakchott reproche aux organisations humanitaires internationales de se fier à des sources non crédibles. L'esclavage a officiellement été aboli en 1981 en Mauritanie, mais jusqu'à 43 000 personnes y étaient encore victimes en 2016 selon le rapport d'Amnesty. En République démocratique du Congo, des casques bleus ont découvert 8 corps dans un village de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Selon le porte-parole de la MINUSMA à Bounia, les corps étaient en décomposition. Une autorité locale a déclaré de son côté qu'il s'agit de victimes des dernières attaques perpétrées dans la région les 12 et 13 mars qui ont fait plus de 30 morts. Il a ajouté que 7 rescapés qui ont passé 9 jours cachés dans la brousse ont été retrouvés. Au Cameroun, un fonctionnaire a été tué et un préfet blessé dans une attaque dans la région du sud-ouest anglophone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après une ONG de défense des droits de l'homme basée dans la région anglophone, le représentant du ministère en charge des questions financières du Lébialem a été tué dans une attaque qui a visé un convoi administratif. Zachary Ungito, préfet de la localité, a été blessé. Le préfet et son équipe se rendaient dans un village pour constater l'incendie de la maison des ministres lorsqu'ils ont été pris pour cible par des séparatistes présumés. Des élections sénatoriales doivent se tenir dimanche dans le pays. Par crainte de troubles, la circulation a été partiellement interdite à certains véhicules dans divers secteurs du sud-ouest. Mardi, un Tunisien a été tué dans cette région lors d'une opération de l'armée visant à libérer 4 otages, 2 Tunisiens et 2 Camerounais. Samedi, un haut fonctionnaire de l'administration a été enlevé avant d'être libéré lundi. Les séparatistes anglophones ont demandé aux représentants de Yaoundé et aux forces de défense et de sécurité de quitter la région, les qualifiant de forces d'occupation.
On reste au Cameroun où un ex-ministre sur lequel pèsent des soupçons de malversation financière a été arrêté au Nigeria puis ramené hier à Yaoundé. Par ailleurs, un ancien recteur de l'université de Douala a été écroué. Ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basil Atangana Kuna, a été arrêté au Nigeria alors qu'il tentait de s'enfuir, a affirmé un officier de police confirmant une information relayée par plusieurs journaux camerounais. La fuite de celui qui est surnommé Don Basilo et qui, selon la presse, était interdit de sortie du Cameroun, a alimenté la chronique sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. En Zambie, le principal parti d'opposition a déposé devant le Parlement une motion de destitution du président Edgar Lungu, qu'elle accuse depuis des mois de dérive autoritaire. La motion présentée par le Parti Uni pour le Développement National sera discutée par les députés le 28 mars. L'UNDP reproche au chef de l'État plusieurs violations de la Constitution, notamment en encourageant la corruption dans les services de l'État et en gaspillant l'argent public lors de ses visites à l'étranger.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité ici aux États-Unis, c'est le président Donald Trump qui a surpris tout le monde ce matin en menaçant de mettre son veto à la loi de financement de l'État fédéral adoptée par le Congrès. Mais il a finalement signé le document tout à l'heure et nous avons en direct Idriss Fall. Idriss Fall, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdourahmane. En effet, Donald Trump vient de signer la loi de finances qui va éviter la fermeture du gouvernement ce soir à minuit. Il a déclaré, je cite, « J'ai signé, mais je ne suis pas content pour beaucoup de choses qu'il y a dans cette loi. Je ne signerai jamais plus une pareille loi de finances. » Il n'y a pas de règlement de la question des DACA, ces jeunes entrés illégalement aux États-Unis et qui avaient été protégés par un programme de Barack Obama que M. Trump a supprimé. Il a aussi dénoncé le fait que la protection de notre frontière, y compris la construction d'un mur, n'a pas été financée. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est le financement de la défense. Il a invité James Mattis, le patron du Pentagone, qui a parlé du plus gros budget jamais reçu pour la défense des États-Unis. Au total, un compromis a été trouvé donc entre républicains et démocrates pour près de 1300 milliards de dollars. Et ce projet de loi doit financer le gouvernement fédéral jusqu'à la fin de l'année budgétaire, le 30 septembre prochain. Donc, la fermeture partielle du gouvernement ce soir n'est pas au rendez-vous, Abdourahmane.
Voilà, Idriss Fall en direct dans Le Monde aujourd'hui. Plusieurs ministres israéliens ont salué la nomination de John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le président Trump continue de nommer de véritables amis d'Israël aux postes les plus haut placés. John Bolton fait partie des plus éminents d'entre eux, a indiqué la ministre de la Justice Ayelet Shaked dans un communiqué. Et puis les États-Unis ont annoncé avoir imposé des sanctions contre 10 Iraniens et une société accusée d'avoir conduit une campagne massive de vol informatique contre des universités et des entreprises dans le monde. Le sud de la France, théâtre de 3 attentats ce vendredi, au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées. Des attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. L'assaillant a agi seul avant d'être abattu par les forces de sécurité. Morgane Guériec.
L'auteur des attaques perpétrées à Carcassonne et Trèbes a été identifié comme étant Redouane Lagdim, 26 ans, connu pour des faits de petite délinquance. D'après le ministre français de l'Intérieur, l'assaillant a été abattu lors d'un assaut mené par les forces de l'ordre dans un supermarché de Trèbes où il était retranché avec un gendarme qui s'était volontairement substitué à un otage. Ce gendarme a été grièvement blessé par balle ainsi qu'un autre militaire lors de l'assaut, ont précisé les autorités françaises. Le suspect avait volé une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant grièvement le conducteur. Il a ensuite blessé un policier par balle. Ce dernier rentrait d'un footing avec plusieurs collègues. Puis l'assaillant s'est rendu dans un supermarché de Trèbes où il a tué 2 autres personnes.
En Syrie, un deuxième accord d'évacuation d'un secteur contrôlé par les rebelles dans la Ghouta orientale a été annoncé par la télévision d'État. Ceci alors que le pouvoir de Damas est en passe de reconquérir les derniers bastions des insurgés. L'accord prévoit le transfert de près de 7000 personnes, des combattants et leurs familles. Les premières évacuations auront lieu demain samedi. La Turquie a rejeté les critiques de l'Union européenne qui a condamné les actions jugées illégales en Méditerranée liées à des contentieux avec la Grèce et Chypre à quelques jours d'un sommet Union européenne-Turquie. Le communiqué de l'UE contient des propos inacceptables à l'encontre de notre pays, servant les intérêts de la Grèce et des Chypriotes grecs, a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manilakiza.
La compagnie ivoirienne d'électricité vient de lancer l'inspection par des drones pour améliorer la surveillance de son réseau et réduire ses coûts. Elle veut aussi former une vingtaine de pilotes locaux pour inspecter ses 25 000 km de lignes à haute tension. L'accès aux pylônes électriques est souvent difficile dans le pays. Le drone permettra d'analyser en peu de temps un grand nombre de lignes, assurer leur sécurité de manière beaucoup plus fine et d'optimiser les coûts. Les autorités projettent d'investir encore 16 milliards d'euros dans le secteur d'ici 2030. Le Togo met en place une réglementation des transactions et services électroniques. Le MEI vise à accélérer les échanges de documents et d'informations entre les administrations publiques. Sur le commerce en ligne, la dématérialisation de procédures de création d'entreprises produira beaucoup d'impact sur la formalisation des entreprises. Le président américain Donald Trump a autorisé la suspension des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs des partenaires importants des États-Unis. Mais cette exemption est temporaire, allant jusqu'au 1er mai. L'Union européenne veut tout simplement la suppression de cette mesure. En représailles, Bruxelles a préparé une liste de produits américains qui pourraient à leur tour être visés par des taxes européennes. La Chine a répliqué en dévoilant une liste de 128 produits à taxer de 15% à 25% en cas d'échec des négociations avec Washington.
Présent la page de sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Série de matchs amicaux sur la planète football.
Le Mali a fait match nul un but partout à Liège face au Japon, qualifié pour la Coupe du Monde 2018 et futur adversaire du Sénégal, Diaby, buteur sur pénalty pour les Maliens. Le Sénégal, justement, qui affronte ce vendredi à Casablanca, au stade Mohamed V, l'Ouzbékistan, amical. Autre rencontre à suivre, Gambie-Centrafrique, Pologne-Nigeria et puis l'Uruguay qui a battu la République tchèque 2-0 dans le sud de la Chine. Les buteurs pour la Céleste, Luis Suarez sur pénalty et Edinson Cavani. La finale de la China Cup qui opposera lundi l'Uruguay au Pays de Galles qui a battu la Chine.
C'est officiel, Zlatan Ibrahimovic rejoint la MLS.
Le Los Angeles Galaxy a confirmé avoir recruté Zlatan Ibrahimovic, buteur et personnalité hors norme du football mondial. Il va relever à 36 ans et après une grave blessure à un genou, son ultime défi. L'attaquant suédois qui a joué à l'Ajax d'Amsterdam, la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain s'est engagé jusqu'en 2019 avec le club de Los Angeles pour un salaire annuel de 1,5 million de dollars. C'est le maximum autorisé dans le championnat nord-américain.
Le président de la Confédération africaine de football sur VOA Afrique.
Un an après son élection face à Issa Hayatou, le malgache Ahmad sera notre invité exceptionnel lundi dans Sporama. L'occasion pour le président de la CAF de revenir sur la première année de son mandat à la tête de l'instance du football africain où beaucoup de chantiers ont été ouverts. On écoute Ahmad.
C'est une grande institution, la CAF. Il y a une nouvelle dynamisme. Tout le monde s'implique maintenant dans la gestion de la Confédération. L'impression, c'est que vraiment la tâche est immense. Il y a tout à refaire à la CAF, même la gestion des personnels, l'administration. Tout doit être aujourd'hui au diapason d'une gestion réelle, transparente et qui respecte la bonne gouvernance.
Le président de la CAF, Ahmad, une interview à retrouver sur notre site voafrique.com.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La superstar de Houston, James Harden, était dans un mauvais jour jusqu'à son réveil en prolongation où il a fait capituler Détroit, victoire 100 à 96. Charlotte a infligé à Memphis l'une des plus lourdes défaites de l'histoire de la NBA, 140 à 79. À l'ouest, Utah s'est imposé à Dallas, 119 à 112.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. Le Premier ministre malien est en visite officielle à l'intérieur du pays depuis hier, après Tessalit. Soumaïlou Boubeï-Maïga était ce matin à Kidal avant de se rendre à Gao. Pour analyse, Ekia Badou a joint à Bamako Shahana Takiou, éditorialiste au journal du 22 septembre.
Selon les informations recueillies et les images que nous avons réceptionnées, le Premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubeï-Maïga, a été accueilli avec ferveur à Kidal. Les populations sont sorties pour lui réserver un accueil chaleureux. Je pense que c'était une visite demandée par les représentants de Kidal eux-mêmes. Le Premier ministre a répondu à cette demande-là que les populations de Kidal sont vraiment contentes.
Comment expliquer que les populations puissent être contentes quand on sait que son prédécesseur n'a pas eu le même accueil en 2014 ?
Le contexte politique a changé, le contexte sécuritaire de même. Et la personnalité de Boubeï est différente de celle de Moussa Mara, son prédécesseur. Soumaïlou a minutieusement préparé cette rencontre. Il a des relations personnelles avec les leaders de la région de Kidal. Il y a le contexte politique qui a changé parce que nous devons aller aux élections en juillet prochain. La communauté internationale et tout le monde est d'accord pour que les élections se tiennent au délai constitutionnel. Et le Mali ne peut pas faire une élection sans Kidal. Donc Kidal doit accepter la présence du Mali dans cette partie qui est en réalité du Mali. Le contexte sécuritaire également a changé. Elle a changé parce que depuis un certain temps, Barkhane est en train de traquer les terroristes dans leur dernier retranchement. La force conjointe du G5 Sahel est également montée en puissance et en train de traquer les terroristes. L'armée malienne est également en train de quadriller un peu certaines zones de terroristes. Donc vraiment, le contexte sécuritaire politique ont changé, ce qui a facilité, de mon point de vue, la visite de l'actuel Premier ministre Soumaïlou Boubeï-Maïga.
La prochaine étape, c'est Gao. Est-ce que vous pensez que ce Premier ministre va être capable également de rassurer tout le monde quand on sait les tensions qu'il y a à Gao ?
Absolument. Gao, c'est sa ville natale. Il connaît les différents leaders de Gao. Il va à travers le ministre de la Réconciliation nationale, à travers la société civile. La tension a beaucoup baissé à Gao. Donc le travail a été facilité pour le Premier ministre en amont. Il va pour rassurer, il va pour restaurer la confiance entre les différentes communautés et vraiment plaider pour la paix, pour la tenue de scrutins paisibles dans la plus grande transparence.
Shahana Takiou, éditorialiste au journal du 22 septembre.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Élection sénatoriale en Côte d'Ivoire demain, une institution créée par la Constitution de 2016. 66 candidats de la coalition au pouvoir et 48 candidats indépendants se disputeront les 99 sièges. L'opposition, qui exige la réforme de la commission électorale, a boycotté ce scrutin ainsi que les élections locales à venir. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint le président de l'Observatoire du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques, Pierre Kwame Adjouma.
L'élection nationale pour l'opposition devrait se faire après les élections des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Parce que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui vont être les grands électeurs de ce scrutin, les mandats arrivent à terme. Et donc, pour avoir l'inclusivité, il aurait fallu que l'opposition participe pour les prochaines élections au niveau du conseil régional et du conseil municipal. Et cela donnerait, bien entendu, une inclusivité de toute la classe politique. Parce que les élections passées ont été boycottées par l'opposition. Donc, ils n'ont carrément pas de grands électeurs puisqu'ils ne sont pas du tout allés aux élections passées.
Donc, vers quel type de résultats s'achemine-t-on à partir de maintenant ?
Il y a des indépendants qui sont en lice. Mais toujours est-il que le Sénat n'aura pas une opposition. Mais ce que nous devrons voir tous à l'esprit, c'est qu'il faut tout faire pour qu'on arrive à réformer la commission électorale indépendante en conformité avec, bien entendu, la nouvelle loi constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Et si cela est fait, nous pensons que les prochaines élections, l'opposition va participer. Et
cela étant, un nouveau Sénat, est-ce que ce n'est pas un renforcement du Parlement, selon vous ?
Oui, mais c'est ce que nous disons. dans le schéma actuel que nous avons, ça sera un Sénat monocolore. Et donc, il n'y aura pas de débat. Voilà un peu pourquoi beaucoup de nos compatriotes disent que ça ne sert à rien de créer ce Sénat.
Est-ce que, selon vous, cela va creuser encore l'écart entre l'opposition et le parti au pouvoir, ou est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné, un moyen de s'entendre ?
Nous, notre rôle, c'est de garantir une cohésion sociale entre les partis politiques. Et nous avons souhaité, et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et la classe au pouvoir, et qui devrait être arbitré par les organisations de la société civile. Parce que je dois vous dire ici, lorsque ces deux entités se retrouvent et ils sortent de ce conclave, on nous dit oui, que nous sommes entendus, nous sommes compris. Et deux, trois jours, chacun dit c'est parce que nous avons dit. Donc nous avons déjà rencontré certains acteurs des deux camps, pour demander à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Sans le dialogue, il y aura toujours un écart entre eux. Donc nous sommes en train de travailler, œuvrer pour qu'il y ait ce dialogue, afin de permettre que les murs de méfiance disparaissent, pour qu'on puisse vraiment aller dans les élections futures. Parce que 2020 approche, donc il faut résoudre tous ces problèmes-là. Et pour les résoudre, et nous avons des oreilles attentives au niveau du parti au pouvoir, et au niveau aussi de la classe d'opposition. Nous avons aussi une oreille attentive. Nous allons continuer aussi notre plaidoyer pour pouvoir parler d'une même voix sur les questions d'intérêt national.
C'était Pierre Kwame Adjoumani de l'Observatoire du Code de bonne conduite des partis et regroupements politiques en Côte d'Ivoire.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Direction la République démocratique du Congo, où la journée ville sans voiture décrétée par le bureau de coordination de la société civile du sud de Kivu a été moins suivie à Bukavu ce vendredi. Le transport en commun était fluide, surtout dans l'après-midi. Néanmoins, plusieurs particuliers ont choisi de laisser leur véhicule au parking pour soutenir cette action citoyenne visant à l'amélioration des routes en état de délabrement très avancé au sud Kivu. Reportage Ernest Mouero.
Ont choisi, eux, de répondre à l'appel de la société civile en laissant leur véhicule au parking. Patient Bachombe, président du bureau de coordination de la société civile, estime que c'est déjà un bon début.
Beaucoup plus les particuliers ont compris notre message. Ceux du transport en commun ont travaillé, c'est vrai, mais nous pensons que nous allons continuer à sensibiliser les transporteurs pour qu'ils comprennent les bien fondés. Mais déjà, c'est que l'autorité commence à s'exprimer par rapport à la question des routes. Tel était notre objectif, que l'autorité priorise la question des routes.
Selon l'Office des voiries et drainages OVD, en 2017, seulement 977 mètres linéaires de routes ont été réhabilités à Bukavu. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, appelle la population à tenir compte du fait que les Sud Kivu ne mobilisent pas assez de moyens par rapport à ses besoins en réhabilitation des routes.
2017, on n'a pas fait grand-chose à part la route Fizi et Mimosa. Il y a un état de besoin qui a été fait pour l'année passée, pour un renforcement systématique des routes qui ont été réhabilitées à la hauteur de 2 570 000 dollars. Donc c'est un problème un peu complexe. Nous devons quand même réfléchir convenablement qu'est-ce que nous produisons pour qu'on entretienne nos routes.
La Ligue des consommateurs des services du Congo-Kinshasa, Likoski, plaide pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles mises au cabaret.
Beaucoup de compatriotes qui sont couragés et qui voudraient faire l'agriculture la priorité des priorités, mais ils sont découragés. Parce que lorsqu'ils produisent, quel est le marché d'écoulement de leurs produits? Il n'y a pas de route.
Des usagers de la route attendent donc avec impatience le début des travaux annoncés par le gouvernement provincial. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Mon Morgane Guériac en votre compagnie dans l'Amérique et vous ce soir, le bras de fer commercial entre Washington et Pékin. L'administration américaine envisage de taxer les importations chinoises à hauteur de 60 milliards de dollars. En face, Pékin menace le porc et les fruits américains. Comment expliquer ces tensions? Quelles pourraient être les conséquences pour les économies de ces deux puissances? Qui a le plus à perdre? On en parle à 19h temps universel avec en studio un expert pour répondre à vos questions. À ce soir.
L'ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU, John Bolton, deviendra le nouveau conseiller à la sécurité nationale du président américain. Donald Trump a annoncé son entrée en fonction à compter du 9 avril prochain. Cette nomination intervient à l'approche des négociations avec la Corée du Nord et d'une échéance cruciale sur l'avenir de l'accord concernant le nucléaire iranien. Qui est donc John Bolton? Eric Manelakiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
John Bolton est un ancien fonctionnaire du département d'État. Je l'ai connu quand j'ai été sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines. Il était sous-secrétaire pour les affaires multilatérales. Et après, il est devenu ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies.
Et c'est quel genre de personnalité, John Bolton?
Il avait des points de vue assez extrémistes. Il était contre l'ONU. Il a voulu refuser de donner des fonds à l'ONU. Il était très anti-communiste et récemment, il a dit qu'il faut faire la guerre contre l'Iran, pour changer le régime. Aussi, dans les journaux, il a fait des articles où il a dit qu'il faut faire la guerre contre la Corée du Nord. Donc, c'est un homme avec des idées très extrêmes.
Son choix a été surprenant.
Surtout qu'il n'est pas d'accord avec le président lui-même. Par exemple, pendant la campagne, le président Trump a dénoncé la guerre en Irak. Il a dit que c'était une erreur de la part du président Bush, 43. Très mauvais, ça a tué beaucoup de monde, beaucoup de soldats américains. Mais même aujourd'hui, M. Bolton dit que c'était une bonne guerre, la guerre contre l'Irak. Il ne veut pas discuter avec Corée du Nord et président Trump a déjà accepté d'avoir une conversation avec Kim Jong-un, le président de Corée du Nord. Donc, ce sera intéressant de voir s'ils vont s'entendre sur les politiques.
Et selon vous, quel est le message que le président envoie à ses partenaires ou aux Américains?
Il sera très dur dans toutes les affaires domestiques et extérieures. Et il y a des gens qui disent qu'il a fait la sélection de M. Bolton de faire une distraction, de changer la conversation. Parce qu'il y a des problèmes sur ce que les Russes ont fait pendant la campagne. Il y a une enquête contre la campagne de Trump et il paraît que ça avance. Donc il est très agité en ce moment.
Et quels sont les risques ou les avantages en nommant Bolton?
Je crois que le plus grand risque, c'est l'affaire d'Iran. Le président lui-même n'aime pas cet accord que le président Obama a fait. Il n'aime pas ça. Il menace de quitter cet accord contre l'avis des Européens. Et Bolton aussi veut quitter cet accord. Donc je crois que la grande menace, c'est l'impossibilité d'avoir une guerre contre l'Iran, que ce sera une catastrophe. Je ne vois rien de bien dans cette sélection de M. Bolton. Je ne vois pas de bonnes choses.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain. À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnon, GLS. À la console, Rob McLean. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Dans un peu moins d'une minute, retour sur l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.